Chers passionnés et chers curieux, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mangaka Story. Aujourd'hui, cet épisode est un petit peu spécial vu qu'il s'agit d'une sorte de suivi. Il y a 3 ans, lors du festival de la bande dessinée de l'image d'Angoulême, j'avais pu rencontrer Guillaume Cap, qui était alors chargé du relationnel auprès d'une maison d'édition qui est chère à mon cœur, Akata. Cette année, retournant sur les lieux du crime, je suis tombé sur une nouvelle personne qui occupait cette fonction. Il s'agit de la douce et belle Cindy Arimanana. Elle a gentiment accepté de se prêter au jeu de l'interview et de livrer quelques informations afin de savoir ce qui était devenu Akata entre ce laps de temps. Et il y a pas mal de nouveautés. Même si elle a réussi à être très prudente pour ne pas me dévoiler toutes les nouveautés du catalogue de cette année, il y aura quand même un bon nombre d'informations dans ce podcast concernant les nouveautés à venir, le succès de certains titres édités sur l'année 2022 et également des informations sur la venue en France d'Akane Torikai lors de cet événement. Bonne écoute à vous.
Bonjour, donc je suis Cindy Arimanana, donc je suis la nouvelle responsable communication marketing au sein des éditions Akata et j'ai commencé très exactement il y a quelques semaines. Début janvier.
Déjà projeté dans le festival d'Angoulême.
Oui, c'est ça, tout de suite dans le bain, donc présentation au libraire, qui s'est passée de manière assez drôle, parce que je ne savais pas que c'était dans une salle de cinéma. Donc avec grand écran, micro devant tout le monde, assez original, mais très plaisant à vivre.
Pas trop stressé quand même?
Au début, quand j'ai vu la salle de cinéma, si, parce que c'était pas prévu du tout. Mais finalement, quand on présente le catalogue et on est entre passionnés finalement, donc on sait de quoi on parle et c'est ça, et on sait surtout à qui on parle. Donc là, c'était au libraire et c'est très important cette relation entre les maisons d'édition et les libraires.
Du coup, le ressenti des libraires dans cette présentation, dans cette grande salle, donc qui est pas forcément un lieu très propice à des échanges. Est-ce que tu sais déjà quel ressenti ils ont eu par rapport à...
Alors, par rapport à la présentation des enjeux de 2023, donc agréable surprise, ils étaient très contents de ce qu'on va proposer. Bah, c'est surtout que cette année, l'objectif, c'est que, évidemment, au-delà des enjeux comme par exemple Sounds of Life, qu'un shonen qui est assez long en 27 tomes en cours, on a aussi des enjeux, enfin le principal thème surtout, c'est aller au-delà des préjugés sur le shoujo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que shoujo, ça a une thématique romantique, en tout cas, c'est ce que les gens pensent, alors que ça va évidemment bien au-delà, et c'est justement ce qu'on va présenter cette année.
Mis à part ce titre-là, est-ce qu'il y aura encore des nouvelles surprises pour les lecteurs chez Akata?
Alors oui, tout à fait, en 2023, il n'y aura que des surprises, que de très bonnes surprises, évidemment, et on a vraiment hâte de vous présenter tout ça, et vraiment, au-delà du fait que ce sont des histoires passionnantes, je pense que ce sont surtout des histoires qui vont étonner, et auxquelles on ne s'attend pas forcément, donc un grand plaisir de présenter ça sous les éditions Akata.
On discutait tout à l'heure en amont de l'interview, ce qui fait le charme de la maison Akata, c'est la grande variété de son catalogue. Il y a des titres dont on dit, tiens, ça, ah oui, c'est normal, c'est Akata. D'autres qui nous surprennent un petit peu, comme Hentai Kamen. Comment est-ce que vous choisissez?
Alors là, c'est le talent de notre directeur éditorial, Bruno Pham, où c'est vraiment, il a un talent exceptionnel. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément chercher un objectif commercial. Il choisit principalement avec le cœur. Il a envie, en fait, que tous les lecteurs, mais vraiment tous les lecteurs, que ce soit des fans de shoujo, de shonen, seinen, et même des personnes qui aiment les œuvres complètement déjantées, qui sortent de l'ordinaire, trouvent leur bonheur. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que Bruno, il va aller évidemment au-delà de ses objectifs très commerciaux. Vraiment, il va aller au-delà, et c'est ça qui fait la particularité surtout. C'est par exemple notre collection What the Fuck, on y trouve littéralement de tout. Shoujo, il a évidemment choisi des thèmes aussi, par exemple le Sign of Affection où on aborde la surdité, on aborde aussi le handicap avec Perfect World. Ce sont pas des histoires que l'on trouve partout, et c'est justement ça qui fait le trésor d'Akata.
Par rapport à ce trésor, est-ce que vous avez déjà eu des retours de lecteurs, et si oui, quels sont-ils?
Alors oui, on a pas mal de retours de lecteurs. Donc ils apprécient énormément notre catalogue, notamment dans la catégorie shoujo. Seinen, là, on est en train de développer notamment avec du polar, donc notamment avec Mon mari dort dans le congélateur, une série terminée en 2 tomes. Et là, on a eu beaucoup d'avis positifs, surpris et très positifs, parce que c'est pas une histoire commune. Et justement, ça qui fait la beauté d'Akata, c'est qu'on peut sortir des surprises et qui marchent très bien.
Alors, on devine, à vous entendre, ce plaisir que vous avez à travailler chez Akata. Qu'est-ce qui vous a amené, du coup, directement chez eux?
Alors, ce qui m'a amené chez eux, c'est qu'en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par les mangas. Et à chaque fois, donc, j'ai évidemment mes maisons d'édition coup de cœur, j'ai évidemment Kiyun, il y a Kanag, évidemment. Mais Akata, ça a ce truc particulier. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lit une œuvre d'Akata, il y a une émotion qui en ressort. Toujours, toujours. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est qu'à chaque fois que je prenais du Akata, je me disais, je sais dans quoi je m'embarque, je sais que ça va être émouvant, je sais que je vais ressentir quelque chose. Et puis, on a évidemment du plaisir. On apprend toujours de quelque chose avec Akata.
C'est vrai. Alors en plus, et Akata, c'est faire plaisir à son public, parce que cette année, pour cette édition, pour le 50e anniversaire du Festival d'Angoulême, le stand est toujours aussi joli, mais vous êtes venu avec Akane Torikai.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez préparé cette arrivée de cette artiste talentueuse?
Alors, on était très très heureux de savoir qu'elle allait venir. Bon, après, l'organisation, elle était un peu sportive, on va dire. Parce que voilà, on savait pas trop si elle allait finalement venir ou pas, avec tout ce qui est organisation, administration. Mais finalement, elle est arrivée, on a pu caler les séances des dédicaces. Elle était très très heureuse de voir qu'en fait, on apprécie son travail. Faut savoir qu'Akane Torikai, c'est une personne qui aborde des sujets dont on n'aime pas forcément entendre parler, comme par exemple les violences faites aux femmes, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de sujets de société où en fait on ne s'y attarde pas vraiment, mais que ce soit pour la femme ou pour l'homme finalement. Et justement avec sa nouveauté Amour Placebo, la particularité c'est que là on a le point de vue de l'homme. Et c'est ça qui fait en fait son côté vraiment varié. Souvent on dit que c'est une féministe, mais elle va vraiment au-delà de ça. Elle est vraiment à un spectre très large et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle.
Je pense aussi, en fait, plus que féministe, on pourrait même dire humaniste.
Tout à fait, c'est vraiment le mot humaniste parce qu'elle va vraiment dans la profondeur de qu'est-ce qu'un être humain. Ce n'est pas qu'une personne qui a qu'une émotion, qu'un sentiment et qu'une seule personnalité finalement. Au fil du temps, on évolue, notre perception du monde change et c'est ça qu'elle met en avant.
Vous l'avez dit aussi, le catalogue est très très varié chez Akata. Imaginons que je possède une baguette magique et que j'aurai la possibilité de vous dire, voilà, je peux te faire venir trois auteurs. Lesquels?
Alors ça, je peux pas trop en dévoiler parce que justement, cette année, on a abordé des auteurs qui étaient très attendus par Akata, donc je pourrais pas en dire plus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a des œuvres ou des auteurs dans le viseur, on arrive toujours à un objectif bien précis et on sait ce qu'on fait. Et aussi, il faut savoir que l'année dernière, on a été racheté par Le Duc, donc une maison d'édition qui est rattachée au groupe Albin Michel. Notre direction éditoriale ne changera pas parce que la particularité, c'est qu'on reste quand même assez indépendant dans nos choix éditoriaux, évidemment dans tout ce qui est stratégie aussi. Mais en fait, le fait d'appartenir à ce groupe permettra aussi à la maison d'édition d'évoluer.
Et peut-être de bénéficier de carnets d'adresses ou de nouveaux ressorts qu'il n'y avait pas avant.
Oui, tout à fait. C'était aussi l'un des objectifs de ce rachat. C'était aussi, justement, Akata commençait à énormément grandir et il nous fallait justement ce côté un peu rassurant de ce rachat qui a pu surprendre aussi lorsque nous l'avons annoncé, mais c'est que pour de bonnes choses.
C'est vrai que souvent les stratégies de maison d'édition, on a connu ça dans le passé, ah, le manga ça marche, je vais peut-être reprendre une petite boîte qui fonctionne. Donc là, ici, c'est pas du tout le cas.
Non, ce n'est pas du tout le cas. En fait, au moment du rachat, on a été très clair, c'est qu'on garde notre ligne éditoriale. Bruno Femme reste notre directeur éditorial. Il continue ses choix et vraiment, on va poursuivre dans notre lignée. Et c'est ça, on garde notre authenticité. C'est ça le mot de l'année, authenticité.
Tant mieux, parce que c'est quand même pour ça qu'on vous aime.
Ben oui, et c'est pour ça que moi, je les mets aussi bien avant d'entrer dans l'entreprise. Et j'ai retrouvé cette authenticité autant par les œuvres qu'avec mes collègues. Chaque collègue a vraiment quelque chose d'unique, finalement. Et on sent à chaque fois que ce sont des passionnés, mais qui ont leur personnalité. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux chaque jour.
Alors, il y a un mot juste que vous venez d'employer, c'est celui de passionné.
Oui.
Donc, vous l'avez dit tout à l'heure dans une des questions, que ça remontait à très très loin. Votre première rencontre avec le manga, vous vous en rappelez?
Oui, tout à fait. Faut savoir que quand j'étais petite, j'étais très malade. Je ne pouvais rien manger du tout. Et le manga qui m'a fait manger, littéralement, c'est Dragon Ball Z.
Oui, c'est ça.
Voilà. Je ne pouvais manger qu'avec ce manga.
Ils sont assez goutons de mémoire dans le manga.
C'est ça. Bon, ça encourageait bien.
On sous-estime cette capacité. Cindy, merci beaucoup.
Merci encore à vous Cindy ainsi qu'à toute l'équipe d'Akata qui a été fort bienveillante lors de cette interview. Akata est une maison d'édition au catalogue vraiment éclectique et surtout intéressant. Souvenez-vous, dans mon podcast consacré à la question LGBT lors de la première saison de Mangaka Story sur Mixcloud, j'évoquais l'excellent titre « Le mari de mon frère » de Gengoro Tagame. C'est chez Akata que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette mini-série, superbe en 4 tomes, consacrée à la tolérance et à l'homosexualité. Sachez également, toujours chez le même éditeur, qu'on peut retrouver une autre série du même auteur qui, elle, évoque le coming out, s'intitulant Our Colorful Days, qui est tout aussi excellente et bien amenée. En tant qu'enseignant, j'ai pu l'utiliser plusieurs fois dans le cadre d'activités pédagogiques, c'était absolument parfait. Vous l'avez entendu, lors de cet entretien, évoquer deux titres sortis en début d'année chez Akata dans deux collections, la collection classique Amour Placebo d'Akane Torikai, ainsi que le deuxième tome de cette série complètement rocambolesque, loufoque et un petit peu héros sur les bords et au milieu, Hentai Kamen, une série complètement barré mais qui vaut sacrément le détour, et on ne remerciera jamais assez les éditions Akata d'avoir pu proposer au public francophone de découvrir cet ovni du magazine Shonen Jump, publié entre 1992 et 1993. Dans sa première édition, cette série comportait 6 tomes, puis elle a été retravaillée en 2009 en 5 volumes de mémoire avec des jaquettes, des surjaquettes qui ont été refaites pour l'occasion. Peu de chapitres, donc peu de tomes, mais assez aussi bizarre que cela puisse paraître, le personnage principal est devenu iconique. Pour vous résumer brièvement cette série hors norme, le personnage principal est un jeune lycéen, Kyosuke, qui est membre très actif de son club de Kenpo. Apprécié également par ses camarades, il est guidé par un sens aigu de la justice. Cependant, il a un terrible secret, limite inavouable. Lorsqu'il enfile un slip sur sa tête, le sang vertueux de son père, qui était un inspecteur de police décédé dans l'exercice de ses fonctions, va se mêler à celui de sa mère, qui est une maîtresse SM complètement tarée, ça s'enflamme, et il se transforme alors en un super-héros, le Hentai Kamen. Oui. Donc c'est un super-héros vêtu d'une culotte, d'accord, sur la tête, en guise de casque, qui se balade avec un maillot à la Borat, donc pour visualiser un petit peu la chose, et qui va parodier énormément de grands classiques de son époque. Je me remettrai jamais de la reprise de la phrase de Sailor Moon, hein, qui passe de « Au nom de la lune, je vais te punir » à « Au nom de ma lune, je vais vous punir ». Voilà, donc c'est loufoque, c'est barré, c'est inadapté à un jeune public. C'est pour ça que ça sort dans la collection What the Fuck et qu'il y a quand même la mention public avertie sur la jaquette française. Quand j'ai appris que c'était passé dans le Shonen Reiki Jump, j'étais complètement mais mort de rire parce que ils ont déjà eu des soucis avec Gonagai au tout début, avec l'école impudique. Il y a eu ça derrière. C'est jouissif, sans faire de mauvais jeu de mots avec le contenu. Mais c'est drôle, c'est vraiment drôle. C'est quelque chose qui pourrait pas sortir maintenant. C'est évident. Mais c'est quelque chose, quand on le remet dans le contexte, alors on voit au niveau du trait, hein, c'est très typique de ce qui se passe dans les années 90. Et ça fait plaisir également à ceux qui ont une bonne culture manga, dans le sens où on va retrouver des tas d'allusions graphiques ou verbales dans le texte, qui est admirablement traduit. Le traducteur fait un énorme travail de réactualisation du vocabulaire pour éviter tous les anachronismes ou des expressions qui ne sont plus utilisées. C'est très très fort. Bref, c'est une série, moi, qui a un coup de cœur depuis la sortie du tome 1. J'attendais impatiemment que ça arrive en France. Donc un gros gros merci aux éditions Akata. Mangaka Story, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.